Bonsoir à tous, frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et avant de partager sa parole, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps de louange. Merci pour cette soirée. Seigneur, nous te remettons maintenant ce moment de proclamation de ta parole. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi comme tes enfants. Seigneur, comme des enfants qui écoutent leur père. Seigneur, merci de, par avance de ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons nous laisser enseigner par toi. Nous voulons nous laisser diriger par toi. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vie et la vérité. Que ce soir encore, cette parole agisse dans nos cœurs, transforme nos vies. Seigneur, que nous recevions ce que tu as prévu de nous donner. Permets aussi, Seigneur, que nous puissions le garder, le serrer dans nos cœurs. Merci pour ta parole qui nous garde dans la vie, dans la vérité. Merci pour ta parole qui nous garde sur le bon chemin. À toi soit la gloire. Amen. Ce soir, je voudrais parler d'une qualité particulière. Une qualité particulière de Dieu. Dieu a une infinité de qualités. Une infinité. Vous en connaissez beaucoup. On en a chanté beaucoup ce soir. Je vais vous en donner une, par exemple. Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Est-ce que vous pourriez en citer comme ça, spontanément? Il est patient. Il est juste, bon, fidèle, puissant, éternel, riche en bonté. Amen. On pourrait continuer des heures et des heures comme ça. On pourrait parler de la paix de Dieu, la fidélité de Dieu, la joie de Dieu. Il y a énormément, une infinité de qualités. J'en avais noté quelques-unes qu'on n'a pas citées. La justice de Dieu, la bienveillance de Dieu, la bonté, la beauté, le règne. La victoire de Dieu, on l'a chanté aussi ce soir. Le règne de Dieu, la jalousie de Dieu. Il y a un attribut qui est peu souvent cité, comme si quelque part c'était presque un sujet tabou, pourtant qui est très présent dans la Bible. Et dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, un monde de péché, un monde d'idolâtrie, c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité. Et un sujet que la parole de Dieu cite souvent, qui est très présent dans la Bible. Et cette qualité, parce que c'est une qualité, vous savez que Dieu n'a que des qualités. Dieu n'a aucun défaut. Nous avons des qualités, des défauts, mais Dieu n'a que des qualités. Et ce soir, je voudrais parler d'une qualité particulière. Il s'agit de la colère de Dieu. La colère de Dieu. C'est une qualité. Chez Dieu, c'est une qualité. Et c'est vrai que si nous n'en parlons pas beaucoup, c'est vrai que c'est un sujet qui est peu présent dans les églises, que ce soit dans les prédications, même dans les louanges. Je ne sais pas, peut-être qu'un pasteur nous dira, mais je ne sais pas si un cantique existe sur la colère de Dieu. Est-ce que nous chantons la colère de Dieu? Est-ce que nous louons Dieu pour sa colère? Je ne sais pas, moi je ne connais pas, mais peut-être que ça doit exister. Et c'est un sujet qui est souvent abordé dans la Bible. Tout au long de la Bible, la colère de Dieu est un sujet abordé, cité. Donc si la Bible en parle, c'est que c'est un sujet important. Et souvent, à la colère de Dieu, il faut associer le jugement de Dieu. Ce sont deux sujets qui vont de pair. Donc un sujet qui n'est absolument pas caché dans la Bible. Vous allez voir qu'on va citer de nombreux versets qui expriment clairement la colère de Dieu. Et même à propos de Jésus, la Bible parle de colère. Vous savez que la Bible est équilibrée, la parole de Dieu elle est équilibrée. Dieu est équilibre. Et pour qu'une chose existe, il faut qu'une autre existe aussi. La colère de Dieu existe pour que d'autres choses puissent exister aussi. Donc je vais prendre deux exemples de textes bibliques qui parlent de la colère de Dieu. L'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, une lecture dans le livre du prophète Nahum, chapitre 1, versets 2 à 8. Chapitre 1, versets 2 à 8. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. On le dit souvent. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est lent à la colère, ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. C'est-à-dire qu'il est lent à la colère. Mais il peut aller jusqu'à la colère. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui, mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Amen. Un autre texte, dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1, versets 7 à 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 10. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Donc j'ai cité un texte de l'Ancien Testament et un texte du Nouveau Testament pour montrer que la colère de Dieu s'exprime avant que Jésus vienne, mais s'exprime aussi après que Jésus vienne. Et aujourd'hui encore, en 2026, la colère de Dieu, c'est un sujet d'actualité pour nous tous. Vous avez vu que les textes sont très explicites. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. Son ardente colère, il poursuivra ses ennemis. Et lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra, il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. La colère de Dieu est présente partout dans la Bible et de façon très très explicite. Et elle est réservée pour ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui se sont détournés de lui, ceux qui l'ont trompé, ceux qui l'ont ignoré. On a plusieurs exemples bibliques, à commencer par Adam et Ève, dès la Genèse. Adam et Ève sont punis par Dieu pour avoir désobéi. Et ça leur a coûté très cher, puisqu'ils sont punis de mort, mort spirituelle, mort physique. Mais ils sont chassés par Dieu loin du jardin. Le monde de Noé qui a été détruit par l'eau. Sodome et Gomorre qui ont été détruits par le feu. Donc c'était des villes idolâtres, des villes qui s'étaient détournées de Dieu. Un monde même du temps de Noé qui était corrompu. La parole nous dit que le monde était corrompu. Je pense aussi à Pharaon. L'exemple de Pharaon, c'est un homme qui s'est détourné de Dieu, qui était contre Dieu. Un homme qui a été puni par les plaies, un homme qui est allé jusqu'à perdre son fils, qui a été englouti par les eaux, parce qu'il avait un cœur endurci. Et la Bible nous parle aussi, dans le livre des Actes, d'Ananias et Saphira, deux chrétiens qui ont été punis de mort immédiate pour avoir menti au Saint-Esprit. Ils ont été punis à cause de leur hypocrisie. Et bien d'autres exemples, puisque la Bible nous parle de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont été punis de la colère de Dieu. Et en préparant ce message et en méditant sur la colère de Dieu, personnellement, ça a réveillé chez moi, ou ça m'a rappelé un sentiment qui est très particulier et qui, je crois, est important que nous le ressentions toutes et tous, c'est ce sentiment de crainte de Dieu. Et je crois qu'il est important d'avoir ça à l'esprit. C'est vrai qu'on proclame souvent l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Et c'est vrai, et c'est bon de se le rappeler. Mais rappelons-nous aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. La parole dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et la colère de Dieu est une réalité. Alors le sens de ce message, qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas de vous inquiéter, ce n'est pas de faire peur, mais au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, la colère chez Dieu est une qualité. Et c'est de se rappeler que tout en Dieu est bon. Même sa colère est bonne pour nous. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons un devoir particulier, je crois, c'est de chercher à connaître Dieu. Pour bien connaître une personne et pour entretenir une relation privilégiée avec cette personne, et c'est vrai aussi pour Dieu, et c'est très vrai pour Dieu, nous devons chercher à le connaître. Dans toutes ses dimensions, dans toutes ses qualités, il n'y a rien d'imparfait en Dieu. Même sa colère est parfaite. Même sa colère est une qualité. Même sa colère est une bénédiction pour nous. Nous devons chercher à connaître Dieu dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes. Jésus nous a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu. Et connaître Dieu, c'est le connaître dans tous ses aspects, toutes ses dimensions. Donc, je voudrais partager avec vous ce soir quelques réflexions autour de quatre questions. Qu'est-ce que la colère de Dieu ? Deuxièmement, qu'est-ce qui explique cette colère ? Troisièmement, comment cette colère se révèle-t-elle ? Et quatrièmement, peut-on échapper à la colère de Dieu ? Première question, donc, qu'est-ce que la colère de Dieu ? Alors, humainement parlant, on le disait tout à l'heure, la colère, c'est plus un défaut qu'une qualité. Si je dis que telle personne est colérique, on va plutôt le classifier dans la catégorie des mauvaises personnes ou des mauvaises qualités, des défauts plutôt. Et c'est vrai, parce que souvent, la colère, ça révèle quoi ? Le caractère de quelqu'un qui ne se maîtrise pas, quelqu'un qui est irresponsable, quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui ne sait pas gérer les situations, donc en fait, qui déborde et qui se met en colère. Évidemment, on va le voir, tout cela ne concerne pas Dieu. Une chose qui est importante de comprendre, c'est que la Bible a été écrite avec un vocabulaire humain et avec des mots humains. Et pour nous, notamment, la Bible a été traduite en français. Et donc, quand on parle de la colère de Dieu, on utilise un mot qui est le mot « colère » en français, que l'on applique aussi bien à des hommes qu'à Dieu. En français, c'est vrai aussi pour l'amour. On parle de l'amour de Dieu comme l'amour des hommes. Alors que l'amour de Dieu est une chose, et l'amour des dieux et l'amour des hommes est une chose complètement différente. L'amour de Dieu est parfait, l'amour des hommes est imparfait. C'est vrai aussi pour la colère. On parle de la colère d'homme pécheur, et c'est le même mot colère qui est appliqué à Dieu qui est saint. Comprenez ce que je veux dire ? Et donc, il y a quelque part une forme de, entre guillemets, même si ce n'est pas volontaire, mais de tromperie. C'est-à-dire que nous, quand on parle de la colère de Dieu, on s'imagine que cette colère, c'est un petit peu ce qu'on reprocherait à des hommes. En fait, on va voir que la colère de Dieu n'a rien à voir avec la colère des hommes. Dans le dictionnaire, colère a pour définition un violent mécontentement accompagné d'agressivité. Et on parle aussi de crise de colère. Donc vous voyez, on peut le dire tout de suite, cette colère-là n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Car Dieu n'est pas violent. Dieu n'est pas agressif. Dieu n'est pas touché par des crises de colère, comme les hommes peuvent être touchés par des crises de colère. Mais au contraire, Dieu est souverain. Dieu domine toutes choses. Dieu ne se laisse pas emporter par des sentiments, mais Dieu est au contrôle de tout. Nous l'avons chanté encore ce soir. Les colères de Dieu sont justes. Nous le savons, Dieu ne prend aucun plaisir à nous voir souffrir. Dieu ne prend pas de plaisir au mal, mais au contraire, il est parfait et dans sa perfection, il nous aime et il n'a qu'un plan pour nous, c'est le plan de notre salut. Il veut toutes et tous nous sauver. Dans la première épître de Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 9, il est dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà ce à quoi nous a destiné le Seigneur, non pas à la colère. Il ne nous a pas destinés à la colère. Notre destin, c'est le salut en Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu n'agit pas par violence envers nous. Il n'agit pas par cruauté. Il a un plan de salut pour nous. Tout en lui est parfait. Tout en lui est équilibré. Sa colère existe parce que sa colère permet aussi son amour. Sa colère existe parce qu'elle permet aussi notre salut. Et si le salut existe, c'est inversement, c'est parce que la colère existe aussi. Nous sommes appelés toutes et tous, en tant qu'enfants de Dieu, à passer notre éternité avec lui dans le ciel. Est-ce que vous imaginez un seul instant que nous pourrons passer notre éternité, nous, enfants de Dieu, en compagnie d'enfants du mal ? Est-ce que vous croyez que lorsque nous serons dans l'éternité, nous serons, nous, qui avons choisi de suivre Dieu, mélangés avec ceux qui ont rejeté Dieu toute leur vie ? Est-ce que vous croyez cela ? Non, nous serons séparés. Nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Ceux qui auront rejeté Dieu seront en enfer. Ça, c'est une réalité. La colère de Dieu a deux caractéristiques. La première caractéristique de la colère de Dieu, c'est qu'elle relève de sa justice parfaite. La colère de Dieu provient de sa justice parfaite. C'est-à-dire qu'avec Dieu, chacun reçoit exactement ce qu'il mérite. Nous pouvons le lire dans Romains au chapitre 2, versets 5 à 8. Romains 2, 5 à 8. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Tu es endurci, tu t'amasses un trésor de colère. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc ça, c'est pour nous, la vie éternelle, pour ceux qui ont persévéré. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il y a donc une différence entre ceux qui ont choisi de suivre Dieu, de lui être fidèles, de marcher avec lui, et ceux qui, au contraire, ont été rebelles à Dieu et l'ont rejeté. Il y aura un traitement différent pour les uns et pour les autres. Et Jésus a clairement expliqué tout cela en expliquant que Dieu demandera beaucoup à ceux à qui il a beaucoup donné et qu'il demandera davantage à ceux à qui il a donné plus qu'aux autres. Jésus l'a clairement expliqué. Une autre caractéristique de la colère de Dieu, c'est quelle est la conséquence de nos choix. Nous faisons des choix et la colère de Dieu est la conséquence d'un choix conscient que nous faisons. Dieu nous a toujours laissé le choix. Il nous a toujours laissé le choix entre le bien et le mal, entre la mort et la vie, entre sa parole et le monde, entre le ciel ou l'enfer. Nous avons toujours ce choix. Et en fonction des choix que nous faisons, eh bien nous aurons affaire à deux sortes de conséquences. La parole de Dieu énonce clairement le fait que la lumière est venue dans le monde, mais que plusieurs ont rejeté la lumière pour aller vers les ténèbres. La parole de Dieu le dit clairement. Et c'est encore le cas de nos jours. Vous connaissez certainement des personnes comme ça qui volontairement rejettent Dieu, ne veulent pas entendre parler de Dieu, sont rebelles à Dieu. Moi, j'en connais, malheureusement. Peut-être que vous aussi. Mais le fait est que ces personnes-là, par ce choix qu'elles ont fait de rejeter Dieu, en fait, elles attirent ce jugement contre elles-mêmes. Elles attirent cette colère de Dieu sur elles-mêmes. Et cette colère de Dieu est la conséquence de leur choix. Dieu nous aime et en cela, il nous laissera toujours le choix. Il nous laissera le choix de l'aimer, il nous laissera le choix de le suivre ou de le repousser. Il nous laissera le choix ou pas de le rejoindre. Il ne nous forcera pas à le rejoindre dans le ciel pour l'éternité. Et ça démontre qu'en fait, il n'est pas cruel, il n'est pas méchant, mais au contraire, il nous aime et en cela, parce qu'il nous aime, il veut nous laisser ce choix, ce libre arbitre. Donc la colère de Dieu, c'est une conséquence, et même une conséquence parfaite à ces choix que nous faisons. Parfaite parce que la conséquence, en fait, suit notre choix. Si nous faisons le choix de suivre Dieu, nous avons une promesse de vie éternelle. Si nous faisons le choix de rejeter Dieu, alors ce qui nous est promis, c'est la colère de Dieu. Comme Adam qui s'était caché dans le jardin d'Éden, il s'était détourné de Dieu, il refusait de suivre Dieu, la conséquence a été qu'il a été rejeté du jardin. Dieu l'a chassé du jardin. C'est le même principe qui s'applique tout au long de la Bible. On a cité quelques exemples. Alors, selon la Bible, qu'est-ce qui explique cette colère? Nous allons lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, versets 5 à 8, des éléments qui nous expliquent cette colère. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. La manifestation du juste jugement de Dieu. Voilà une chose qui explique la colère de Dieu. C'est la manifestation de son juste jugement. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, l'irritation et la colère, à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Dieu a des principes. La Bible nous parle de plusieurs principes qui relèvent de Dieu. Par exemple, le principe de la sanctification. Dieu veut notre sanctification. Dieu veut que nous progressions dans notre relation avec lui. Dieu déteste le péché. Et c'est vrai que la communion avec Dieu implique notre sanctification. Dieu ne cohabitera pas avec le péché dans nos vies. Et donc, une communion avec Dieu, une vie avec Dieu, exige une transformation de notre part. Une sanctification. Un autre exemple, c'est le principe de justice. Dieu agit toujours avec droiture. Dieu est juste. Dans toutes les situations, Dieu est juste. Il aime la justice. Et inversement, il ne ferme pas les yeux sur l'injustice. Et il y a bien d'autres principes comme ça que la Bible nous révèle. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la colère ? La Bible nous parle à plusieurs reprises, on le disait tout à l'heure, de la colère, à de nombreuses reprises. Et il y a un principe qui s'applique à la colère de Dieu et qui est très présent dans la Bible, cette image est très présente dans la Bible, c'est le principe de la semence et de la récolte. Ce principe qui dit que ce qu'un homme sème, il le récolte. Que la bonne semence en terre produit un bon fruit, mais qu'une mauvaise semence ou une semence corrompue va produire un fruit pourri. Et plusieurs confirmations comme ça dans la Bible viennent nous parler de ce principe. On va citer un exemple dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7, qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc ça, c'est très clair. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Ce que nous semons, nous allons le récolter. Et ce principe-là s'applique à la colère de Dieu. Si nous semons des choses mauvaises, nous récolterons de mauvais fruits. Si nous semons une vie dans notre vie, l'indifférence de Dieu et le rejet de Dieu, nous récolterons la colère de Dieu. Et que ce soit sur un plan spirituel, comme moral, comme matériel, la Bible nous donne beaucoup d'exemples de ce principe de la semence et de la récolte. La colère de Dieu, c'est sa réaction au péché, sa sainte réaction face au péché. Rien à voir avec nos crises de colère, avec nos façons de nous emporter, notre impulsivité, notre incapacité à gérer les situations, à assumer certaines choses. Rien à voir avec notre faiblesse quelque part. C'est tout le contraire. La colère de Dieu, c'est l'expression de sa justice. Comme on l'a lu, c'est la manifestation de son juste jugement. Car il rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle pour ses enfants et la colère qui sera ce que récolteront ceux qui se seront détournés de Dieu, ceux qui auront vécu une vie loin de Dieu, ceux qui seront enfants de l'injustice. La colère de Dieu s'explique par la vie éternelle. Pour que nous ayons accès à la vie éternelle, il faut aussi que la colère de Dieu existe. Si tout le monde avait accès à la vie éternelle, si personne ne s'attirait jamais le jugement de Dieu par son mauvais comportement, quelle serait la valeur de la vie éternelle ? Quelle serait la valeur de la vie éternelle si la colère de Dieu n'existait pas ? Une autre question, c'est, selon la Bible, comment se révèle la colère de Dieu ? Nous pouvons le lire dans Romains, au chapitre 1, versets 18 à 19. Romains 1, 18 à 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Amen. Voilà des versets qui nous parlent de la façon dont se révèle la colère de Dieu jusqu'à nous. Et à partir de ce verset, j'ai retenu trois enseignements. Le premier, c'est que la colère de Dieu est une révélation constante. Et une révélation continue et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. On peut voir au verset 18 qu'il est dit « La colère de Dieu se révèle. » La colère de Dieu se révèle. Le temps de conjugaison employé, c'est le présent. Ce n'est pas le temps passé, la colère de Dieu s'est révélée. Ce n'est pas non plus un temps futur, la colère de Dieu se révélera, mais la colère de Dieu se révèle. Donc c'est vrai encore aujourd'hui. Ce qui était vrai du temps de Paul, au moment où il écrit cette lettre aux chrétiens de Rome, c'est encore vrai aujourd'hui. La colère de Dieu se révèle. Comme depuis la création, comme nous l'avons lu, ça a concerné Adam et Ève, comme jusqu'à la fin des temps, puisque nous avons lu aussi dans l'Épître aux Thessaloniciens que quand Jésus reviendra, il y aura un jugement en rapport avec le déchaînement de la colère de Dieu contre ceux qui l'auront rejeté. Donc nous sommes entre les deux. Et comme le dit la parole de Dieu, la colère de Dieu se révèle. C'est vrai encore aujourd'hui. Autre chose, c'est que cette colère vient du ciel. La colère de Dieu se révèle d'où ? Du ciel. Elle se révèle du ciel. Donc, le ciel, il existe pour tous les hommes. Il n'est pas réservé à quelques-uns. Le ciel est au-dessus de toute la surface de la terre. Où que je me trouve sur la terre, quand je lis la parole de Dieu et que je lis la colère de Dieu se révèle du ciel, j'ai beau me trouver en Australie, ou au Canada, je suis toujours sous le ciel. Donc, je suis toujours sous potentiellement la colère de Dieu qui se révèle présentement à moi depuis le ciel. Donc, cette colère, elle a une dimension planétaire. Ça veut dire qu'elle a une révélation universelle et ça veut dire qu'elle concerne tout homme. Et le troisième enseignement, c'est que le texte nous dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice. Ça veut dire qu'elle se révèle directement dans notre conscience du bien et du mal. Cette conscience de bien et du mal dont Dieu a équipé chaque homme. Nous avons tous, Dieu nous a toutes et tous donné une capacité à discerner le bien et le mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est juste et ce qui est injuste, la vie et la mort, etc. Dieu nous a donné cette capacité. Donc, quand sa colère se révèle contre toute impiété et contre toute justice, ça veut dire qu'aucun homme n'est véritablement ignorant que ce qu'il fait est bien ou mal. Nous avons cette conscience et, à plus forte raison, nous-mêmes qui avons reçu la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais en même temps que nous avons reçu la bonne nouvelle de l'Évangile, nous avons reçu aussi, entre guillemets, la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'il existe une colère de Dieu contre toute injustice et contre toute impiété pour tout homme et qu'elle se révèle à nous. Et la parole de Dieu nous la révèle. Donc la colère de Dieu est une révélation constante. Elle est pour tout homme et elle est contre toute injustice. Alors selon la Bible, peut-on échapper à la colère de Dieu? C'est la quatrième question. On peut lire dans l'Épître aux Romains au chapitre 3 et au verset 9 quelque part une façon dont la parole de Dieu nous décrit. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si nous ressemblons à ces hommes-là, on peut se poser la question, comment échapperons-nous à la colère de Dieu? Et c'est une question vitale, car le texte, nous l'avons lu, la Bible dit que nous sommes tous, toutes et tous, sous l'emprise du péché, et que pas un seul parmi nous n'est juste, que nous sommes tous coupables. Et nous savons que la loi, comme la religion, ne nous sauvera pas. Ni la loi, ni la religion ne peut nous sauver. Au contraire, ces choses-là excitent notre péché. Et ces choses-là révèlent notre misère. Ces choses-là, que ce soit la loi ou que ce soit la religion, ces choses-là révèlent notre faiblesse. Est-ce qu'il y a donc un moyen d'échapper à la colère de Dieu? Oui, il y en a un. Et toujours dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 9, la réponse nous est donnée. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Voilà la bonne nouvelle. Oui, frères et sœurs, il s'agit du sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons justifiés et pour que nous soyons sauvés par lui de la colère de Dieu. Amen. Alléluia. Comment ce sang qui a coulé il y a plus de 2000 ans peut-il nous justifier, comme le dit la parole? Eh bien, par le moyen de la foi. Nous qui croyons que ce sang a coulé pour nous, nous qui croyons que ce sang lave nos péchés, nous qui faisons totalement confiance au Seigneur Jésus, à la personne du Seigneur Jésus, nous qui faisons totalement confiance à l'œuvre du Seigneur Jésus, nous pouvons prétendre à être justifiés par son sang qui a coulé et à être sauvés de la colère qui nous était destinée. Alors, comment le fait qu'il soit mort en sacrifice peut-il nous justifier? Toujours dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, versets 24 à 26, il est dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Jésus s'est fait victime propitiatoire. Il s'est fait chair. Dieu s'est fait chair pour mourir pour nos péchés. Il s'est donné un sacrifice et en faisant cela, il a expié le péché. Et il a détourné la colère de Dieu qui nous était destinée. Il a effacé notre dette, notre culpabilité. Et tout cela, mes frères et sœurs, tout cela, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est là qu'est le cœur de l'évangile. C'est qu'en acceptant de monter sur la croix, Jésus a pris notre place. Et il a porté notre péché. Et il a pris sur lui la colère qui nous était destinée. Il s'est placé entre nous et Dieu. Il s'est placé entre la colère de Dieu et nous. Entre cette colère et nous, il y a la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette colère est toujours présente, on l'a dit tout à l'heure. La colère de Dieu est toujours présente. Mais il y a désormais une espérance pour quiconque croit que le sang de Jésus l'a justifié. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, dit que « Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Jésus nous délivre de cette colère à venir. Souvent, quand on dit que quelqu'un est délivré, c'est qu'on parle au passé. Il a été délivré. Nous sommes délivrés de la colère à venir. Mais nous sommes déjà délivrés. Jésus nous a déjà sauvés. Celui qui croit est déjà sauvé. Celui qui croit sera sauvé. Pour finir, je voudrais dire quelques autres choses à propos de la colère de Dieu. C'est que peut-être à une époque, que je n'ai pas connue moi personnellement, mais des hommes ont utilisé, entre guillemets, la colère de Dieu, ou le sujet de la colère de Dieu, pour faire peur à d'autres hommes, pour les inquiéter et les amener à se convertir. Peut-être aussi qu'à certains moments, la colère de Dieu a été mal comprise, parce que c'est vrai qu'il y a des sectes qui se sont construites sur cette idée qu'elles seules pouvaient échapper à la colère de Dieu. Et des hommes et des femmes ont été manipulés à partir de ce principe de la colère de Dieu pour leur faire peur. Et bien sûr, il ne faut pas tomber dans ces excès, mais on le disait tout à l'heure, la parole de Dieu est équilibrée, et je crois aussi, mes frères et mes sœurs, qu'il faut nous souvenir que la colère de Dieu est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui a été réservé à des exemples que nous avons cités tout à l'heure, qui sont dans la Bible, mais c'est aussi une réalité pour nous. Et la colère de Dieu fait partie intégrante de son message, au même titre que son amour, au même titre que sa patience, au même titre que sa bonté. Et si nous voulons connaître Dieu, je le disais tout à l'heure, nous devons tout chercher à connaître de lui, tout accepter de lui, tout aimer en lui. Et c'est vrai que le sujet de la colère de Dieu, quand on en parle comme ça, ça peut paraître être un sujet dépassé, un sujet un peu obsolète, mais je crois que c'est un véritable sujet d'actualité, encore plus de nos jours. Nous souvenir qu'il y a une colère de Dieu qui est destinée à ceux qui l'ont rejeté. Et je crois aussi que c'est un message clé pour comprendre l'œuvre de la croix, pour comprendre le message de l'Évangile, pour comprendre qu'il y a un miracle. À partir de la colère de Dieu, il y a aussi le miracle de l'amour de Dieu qui sauve les hommes. Donc, je ne voulais pas vous faire peur. J'espère que je n'ai pas fait peur à qui que ce soit ici. Mais en préparant ce message, je me suis aussi souvenu de ce sentiment qu'on appelle la crainte de Dieu. Et je crois que c'est un sentiment dont nous devons nous souvenir. Et peut-être même qu'il faut le rechercher. Si tu ne crains pas Dieu, et si tu ne crains pas cette colère de Dieu, je pense que tu dois méditer sur ce sujet. Et nous rappeler aussi un texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 28 à 29, qui dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il l'est aussi. » Donc, nous qui avons parfois tendance à prendre le péché à la légère ou à cohabiter avec lui. Rappelons-nous que cette colère de Dieu existe et méditons sur cette colère de Dieu. Soyons remplis de cette pensée, de cette crainte de la colère de Dieu. Rappelons-nous qu'il est aussi un feu dévorant et puis louons Jésus-Christ parce qu'il nous a d'ores et déjà délivrés de cette colère. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce rappel que oui, tu es amour, tu es paix, tu es justice, tu es tellement de choses bonnes pour nos vies, mais de nous rappeler qu'il y a aussi cette colère qui est promise à celles et ceux qui se sont détournés de toi, qui t'ont rejeté, qui t'ont méprisé, et qui ont délibérément choisi une vie loin de toi. Merci Seigneur de nous le rappeler. Merci Seigneur par ta parole de nous enseigner encore ces choses-là, de le rappeler à nos cœurs. Merci pour les transformations que ta parole permet dans nos vies, permet dans nos cœurs. Seigneur, nous nous plaçons humblement devant toi pour te dire que oui, nous t'aimons et nous t'aimons pour tout ce que tu es. Seigneur, nous voulons rappeler ton sacrifice à la croix et nous croyons que tu ne l'as pas fait en vain, mais au contraire, que tu l'as fait par amour pour nous. Et nous croyons que par ce sacrifice, tu nous as sauvés. Par ton sang qui a coulé, tu nous as justifiés. Et par avance, tu nous as sauvés de la colère à venir. Merci pour ta parole. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Et merci pour ce rappel qui fait partie de ces bontés. À toi soit la gloire. Amen.